Le club de la presse, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, à partir de 11h sur Canal FM.
Beaucoup de choses ont évolué, mais il reste des défis à relever.
Qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux, qu'est-ce qu'il y a de plus riche pour l'homme, l'être humain, que la liberté?
Ce dépotoir a été fermé parce que
nous mettons la censure, la couleur du bon miel. Des gens se posent cette question.
Tous les services qui accueillent,
on ne voit pas circuler les bêtes comme ça.
Ils sont censés défendre la veuve et l'orphelin.
Et quand il y a quelque chose, votre carrosserie, c'est votre peau.
Donc du coup, je pense véritablement que
il ne faut pas perdre du temps sur des revendications, excusez-moi, qui n'en valent pas la peine.
Les gens se lèvent le matin à 7h, ils disputent la route avec les gros camions.
Les surcharges sur les tricycles, on en voit tous les jours.
Actualité politique, art, culture et sport, société, croissance économique, santé, éducation, environnement, développement durable. Tout le Togo au quotidien des grandes villes et localités les plus reculées. Canal FM, la radio qui est plus proche de vous.
Je suis très heureux de vous retrouver sur la nouvelle génération. Vous le savez très bien que le rendez-vous, c'est chaque jour de lundi à vendredi à partir de 11h. Nous sommes ensemble alors pour cette émission Club de la Presse. Nous sommes aujourd'hui au vendredi 30 août 2024 et il sonne 11h. Sur votre radio, vous comprenez sans doute que c'est l'émission Club de la Presse qui démarre ainsi. Bienvenue au club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Thomas était aussi d'ATV assure la mise en onde. Jérôme Dakouta est à la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou au micro. Comme toujours, vous le savez très bien, vous nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nero, Radio La Paix à Takpamé, Central FM à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou, et puis Radio Courtoisie à Dapan. Et là, vous comprenez que nous couvrons tout le Togo avec cette émission Club de la Presse. Vous avez aussi ce privilège de nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales. Tout d'abord, il y a notre chaîne YouTube également qui est là et aussi notre page Facebook. Mais n'oubliez pas, il y a aussi nos radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Le Bénin. Club de la Presse, vous le savez aussi, c'est le décryptage, l'analyse et le débat de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi, confrères journalistes, Firmé Teko Agbo, bonjour.
Bonjour Pascal Lossou, merci de m'avoir invité.
J'espère que tu vas bien.
Oui, avec la grâce de Dieu.
Comme on dira l'autre, ça fait 2 jours là.
Oui, ça fait 2 jours. C'est par rapport à un certain nombre de responsabilités.
Tout à fait.
Ouais, donc aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, nous sommes là,
oui.
Tout confiants. Espérant que l'avenir sera vraiment meilleur.
Tout à fait. C'est ça aussi notre espoir ou notre espérance.
Il y a une parole de la Bible que j'ai l'habitude de répéter. Oui. C'est Jérémie 31, verset 17. Il y a de l'espérance pour ton avenir.
Il y a de l'espérance pour ton avenir.
Ouais, il y a de l'espérance pour notre avenir. Mmh. Nous qui vivons, nous vivrons longtemps avec la grâce de Dieu et nous vivrons merveilleusement bien.
Mmh. Germain Pouli, j'espère que vous vivez aussi merveilleusement bien.
Grâce à Dieu, je vis bien, merveilleusement, oui, Dieu fait les merveilles, en tout cas, dans ma vie. Et merci pour l'invitation, bonjour à Pascal, bonjour à tous les confrères ici présents, à tous les auditeurs. Grâce à Dieu, ça va.
Dieu merci. Alors, j'espère que Thierry Afanouk ne nous dira pas le contraire. Lui aussi vit merveilleusement bien. Mais quand on le voit même avec sa forme, ça démontre que non, mais il vit merveilleusement bien.
La forme n'a rien à voir avec le fait de vivre merveilleusement bien. Hein. Bonjour Pascal et bonjour à toutes et à tous.
J'espère que tu vas bien.
Ah, on rend grâce à Dieu.
Dieu merci. Monsieur Kofi Annani, bonjour.
Bonjour Pascal et bonjour aux auditeurs. Merci de m'avoir invité.
J'espère que tu vas bien aussi.
Alors je vais très bien. Le Créateur a choisi de nous réveiller. C'est-à-dire qu'il a encore un plan pour nous.
Je ne sais pas pourquoi vous, les deux messes, vous avez choisi alors d'être à côte à côte. nous avons un invité, c'est M. Seoavi Messan. M. Messan, bonjour.
Bonjour.
J'espère que vous allez bien.
merveilleusement bien comme
d'accord.
les autres.
Dieu merci. Alors, vous êtes le promoteur du festival Sefior, ce festival qui est ouvert depuis le 16 août dernier. Et la clôture, c'est le 8 septembre prochain, bien sûr. Exactement. Alors, oui, mais c'est ce festival qui se déroule alors surtout dans le pays Guin, comme on le dirait, parce que déjà la journée d'hier a été très importante. Alors, pour le pays Guin, c'était la prise alors de la pierre sacrée. Et aussi, aujourd'hui, c'est la nouvelle année qui commence. Alors, comment vous avez d'abord démarré cette nouvelle année, monsieur Messin?
Bonjour aux auditeurs. Je commence par souhaiter une très belle année à tout le peuple Guin Mina. On oublie souvent d'ajouter Mina, mais
tout à fait.
Guin Mina. Et PDK ou Alekanami, ou l'ami ou l'anami, là. Nous avons été dans la ferveur de la prise de la pierre hier et c'était incandescent comme d'habitude. Et le parterre d'autorité a répondu présent et les fils et filles du peuple Guin ont fait un derrière cette prise hier à la forêt sacrée à nous tous, la représentation de nos divinités. Et c'était une journée de convivialité pas possible. Comme on le sait, on a commencé par faire taire et nos divergences et on a compris que ce qui nous réunit dépasse ce qui nous sépare. Donc, nos quatre trônes font un maintenant autour de nos célébrations et on voit que cette fête de retrouvailles-là ou cette fête annuelle qui nous rassemble là a repris de plus belle et c'est de bonne guerre. Merci à Dieu, merci au Dieu du peuple Guin Mina. Merci à vous de nous avoir invités.
Je sais que la pierre, hein, cette année, c'est, la couleur est blanc sale. Blanc sale, ça dit beaucoup de messages. Alors, c'était quoi le message concret?
Oui, ça dit beaucoup de messages, mais je pense que le plus important, ce que la pierre doit nous apporter chaque année, c'est ce message de paix-là. Donc, la pierre nous demande de maintenir ce climat de paix que nous savons si bien entretenir au Togo, de vivre dans cette cohésion sociale-là que les gens nous connaissent aussi, d'aller vers plus d'unicité pour les peuples et d'être plus responsable vis-à-vis des grossesses que nos femmes portent, nous, les hommes, nous faisons porter aux femmes et de ne pas faire des interruptions volontaires de grossesse. Je pense que c'était les messages principaux de la pierre hier.
Et ce message, je pense que le peuple Guin doit commencer par vivre dans les pratiques, les bonnes pratiques même d'ailleurs, pour que du moins ce message soit bien respecté.
Oui, bien sûr. Ce que nous ne savons pas, c'est que la pierre n'est pas que l'affaire du peuple Guin Mina. Les présages de la pierre sont pour le Togo. C'est pour la terre togolaise. Ce n'est pas pour seulement les fils Guin et Mina. Donc, si vous êtes de Thiévier, d'Atakpamé ou pas, ce que la pierre dit, on nous le dit à nous tous.
Donc c'est pour tous les Togolais.
C'est pour tous les Togolais. C'est pour le Togo. Togoubé, Kaf Magblombé, et que ce soit Togo, Afan Kakaré. Donc les présages ou les prédictions ne sont pas pour le peuple ou bien les ressortissants de peuple Guin Mina seulement. C'est pour tout le peuple du Togo, tous les fils et filles du Togo.
Mais est-ce que finalement vous avez l'impression que tout le peuple togolais est impliqué dans ces messages alors que délivre souvent la pierre?
Bon, le message est délivré, on s'assure que ça soit dans le domaine public et on donne cette caractère populaire à ce message-là. On fait comprendre à tout le monde que le message est disponible et c'est pour nous tous. Donc si je peux vous dire comment ça s'est passé hier, avoir la foule qui s'est déplacée encore, je pense que le Togo se sent assez impliqué. C'est vrai que c'est la période où les fils Guin et Mina rentrent de partout dans le monde. Mais il n'y a pas que. Parce que hier, moi, j'ai vu les gens de tout horizon. Et parce qu'il y a ce caractère festif-là, il y a cette exhibition culturelle aussi qui attire du monde et des touristes, des curieux de partout dans le monde. Donc je pense que au-delà de nos peuples guin-minas, la plupart
des populations au Togo, en Afrique et à travers le monde se sentent concernées.
Voilà, vous avez parlé tout de suite alors d'exhibitions culturelles et exhibitions culturelles. Il y a aussi la danse qui est là-dedans. Et votre festival CIFIOR pour cette troisième édition va plus ou bien s'articule alors plus alors sur la question de la danse. Et le thème même d'ailleurs que vous avez choisi est évocateur. C'est c'est symbolique alors des danses en pays guin, c'est ça le thème. Mmh. Alors, finalement, pourquoi alors ce thème?
D'entrée déjà, je tiens à dire aux téléspectateurs que...
Non, mais les auditeurs plutôt.
Aux auditeurs.
Oui, mais justement, vous pouvez dire également.
C'est parce que vous ne m'avez pas trop invité à la radio.
Non, mais vous pouvez dire également téléspectateurs parce que finalement, nous sommes également sur YouTube et qui est sur nos différentes plateformes. Okay.
Donc les deux, les auditeurs, je tiens à dire que la danse traditionnelle du peuple guinéen n'est pas Agbadia. Déjà d'entrée, je veux que les gens comprennent ça de façon très formelle. La danse traditionnelle des peuples guinéen, ce n'est pas Agbadia.
Est-ce que la précision en vaut vraiment la peine?
Bien sûr, parce que c'est ce que tout le monde pense. Parce que vous avez lu de façon très claire, on a dit symbolique, les danses en pays. Mm. C'est bien étudié parce qu'on a vu qu'au fil des années, en pays guin, il y a ce qu'on appelle ce quiproquo au niveau de nos danses ou au niveau de nos cultures parce que nous avons des danses circonstancielles, des chants et des rites circonstanciels. Par exemple, si on doit introniser un chef ou un roi, il y a des pas de danse qu'on peut seulement esquiver en cette période-là. Si il y a un décès ou la plupart de nos danses que nous faisons dans la période des fêtes sont interdites après tout le long de l'année. Ce qui fait que très souvent les gens pensent que nos danses traditionnelles n'existent pas, alors qu'on a des dizaines de danses traditionnelles.
Est-ce qu'on peut avoir le nom peut-être à l'heure de ces danses?
Quand je vous dis Bekon par exemple, bon, j'ai entendu ça dans une chanson des Toufal, mais je ne sais pas s'ils savent ce que ça veut dire. Mais Bekon par exemple, c'est une danse qu'on fait aux morts. C'est une danse d'accueil aux morts, les jours de funérailles. Donc, il y a et la sonorité et il y a la danse qui va avec. Quand je dis éplé, par exemple, bon, je sais qu'il n'y a que des gens qui sont guéminas qui me comprennent. Quand on dit éplé, par exemple, c'est une sonorité qui ne sort qu'une seule fois à l'année et ça sort à Agbounouranfor, le jeudi qui est l'apothéose des carnavals, les Kpanchochon. Vous voyez? Quand je dis chez les Djossi, par exemple, le clan des Tchoubans, il y a un truc qu'on appelle Oliyarouidam, donc il y a une danse spéciale qui est là-bas. Chez les Adjaka, c'est pareil. Donc, ces danses-là qui ne peuvent être exécutées qu'une seule fois à l'année, mais qui existent et qui ont une particularité dans chaque localité, et nous voulons maintenant permettre aux gens d'en savoir plus et d'expliquer surtout la symbolique parce que c'est des gestuels qui parlent. Nous parlons avec les tambours et nous parlons aussi avec les danses. Très sincèrement, quand nous sommes assis, c'est très intéressant. Je peux vous dire ce que la personne est en train de dire avec son gestuel. Je peux aussi vous dire ce qu'il est en train de dire avec le tam-tam. Et quand je finis par vous le dire, quand vous allez à l'esprit un peu, quand vous écoutez le tam-tam, vous comprenez, vous arrivez à déchiffrer qu'il vient de dire mon nom.
Ah ouais, oui, justement. Donc, votre nom est dit même d'ailleurs à travers le tam-tam.
Le nom peut être dit à travers le tam-tam et à travers les gestuels aussi. Donc, il y a un vocabulaire gestuel qui est utilisé dans cette période-là. Donc, c'est très plaisant, c'est très enrichissant. On veut que les gens découvrent et comprennent pour mesurer la profondeur, l'immensité, la richesse de nos cultures.
D'accord. Alors, pour ce qui concerne les activités qui meublent ce festival qui dure pratiquement 25 jours, c'est quoi ces activités?
Bon, je pense qu'on n'a pas présenté même le festival.
Mais justement.
CIFIOR Festival, c'est le festival de brassage et d'identité culturelle des lacs. Donc, dedans, vous avez entendu brassage et identité culturelle. On n'est pas en perte d'identité. Mais on essaie de révéler nos identités le plus possible au reste du monde. Le brassage, c'est le fait que nous avons quatre communes, par exemple, dans les lacs, Mais vous savez que notre fête est itinérante, où nous avons des cultures itinérantes. Donc là, on a fait la prise de la pierre à Anera et à Glidi plutôt hier. Donc la semaine prochaine, la fête continue à Glidi et à Anera. La semaine prochaine, c'est à Gaudrenfort. Après, ça part, il y a Zalivé, il y a Enfroin, il y a tout ça. Donc c'est une fête qui circule, ce qui veut dire que sur le côté administratif, par exemple, on doit avoir l'intercommunalité. Et sur le côté des traditions, nous sommes liés comme nous ne voulons pas parce que nous avons un même panthéon. Donc, nous avons décidé, à travers Sifio Festival, de révéler au monde l'immensité de nos cultures. Nous avons la plus longue fête traditionnelle. Les gens ne le savent pas, on commence en juin et on finit en décembre. Vous voyez, c'est très long et il y a tellement de choses dedans qu'on n'a pas expliqué durant des années que les gens ne comprennent pas. Même les ressortissants qui sont à l'étranger, ils ne comprennent pas. Donc, Sifio Festival est arrivé surtout pour brasser nos cultures et les révéler au reste du monde. Ça fait 3 ans qu'on a commencé et avec la complicité ou le soutien des différents chefs, des différentes autorités aussi, on fait notre petit bonhomme de chemin. Mais le festival tourne plus autour de nos traditions, de nos folklores et surtout autour de notre savoir-faire culinaire qui est très particulier au peuple guyanais. Puisque
déjà, quand on parle de Sifio, ça en dit long.
Quand on parle de Sifio, c'est évocateur parce que quand je dis à quelqu'un « Allons à Gaudrenfort aujourd'hui », c'est devenu l'identité de moi, ma ville, où j'entends les gens dire « Il y a ici Sifio dimanche ». Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais on va me lever tac, mais bien, on va me lever comme. Donc, c'est devenu l'identité d'à Gaudrenfort. Donc, on a dénommé ce festival exprès pour ne pas rentrer encore dans les sigles parce que toutes les fêtes communautaires sont en sigles. Donc, à travers Sifio Festival, le programme est très enrichissant. C'est 25 jours. Pourquoi ? Normalement, c'est 10 jours. Mais on a fait 25 jours parce que nous avons des programmes de restitution. On a lancé ce qu'on appelle Sifio Academy, qui est une université libre de savoir. Donc, durant les jours qu'on peut considérer comme les before, on a fait des formations aux femmes en activité génératrice de revenus. On leur a aussi montré comment digitaliser ces entreprises et ces entreprises-là. On a aussi fait des formations aux agriculteurs, aux maraîchers de la zone en agriculture biologique. On a formé aussi les jeunes sur tout ce qui est création de contenu, monétisation et certification des comptes, toujours dans le digital. On a fait une formation géniale avec des juristes sur comment est-ce que les femmes peuvent rentrer dans leur veuvage, la plupart des problèmes qu'on a souvent. De côté héritage, quand nos parents décèdent et tout ça. Bon, ça a été des moments plaisants. Le plus important pour nous, c'est le volet social. Parce qu'il n'y a pas que la fête dans la vie. Quand on finit de faire les fêtes, qu'est-ce qu'on laisse à nos populations ? C'est ce à quoi on a pensé et nous avons décidé. Malgré qu'on n'est pas encore assez grand, on n'est qu'à la 3e édition, on a ajouté 15 jours de plus et pendant ces 15 jours-là, on a lancé la Sifio Academy. Ça a été très dur et la population nous a prouvé qu'on a eu raison, puisque la population a été très réceptive.
Alors concrètement, c'est quoi le résultat ou les résultats aujourd'hui alors de cette académie ?
Bon, les résultats, quand je pense surtout du côté des agriculteurs, ils ont compris qu'il y a des palliatifs ou qu'il y a des solutions autres que les engrais qu'ils utilisent. Et c'est bien parce qu'on est en train de les former, de les mettre en groupe pour pouvoir voir comment financer tout cela et leur permettre d'utiliser d'autres alternatives qui n'ont pas à aller chercher loin, qui sont juste à côté d'eux. Quand je parle des feuilles de manguier, par exemple, c'est pas comme si on savait qu'on pourrait en faire des engrais. Quand je parle de l'élevage des mouches, les déchets des mouches et tout ça qu'on utilise pour faire des intrants, c'est des choses qu'on ne connaissait pas. Moi-même, j'ai beaucoup appris pendant les journées de Sifio Academy. Et on a été surtout surpris par le nombre de personnes chaque fois qui sont venues dans les formations. Ça nous pousse à faire plus et les années à venir, nous allons développer plus de modules. Nous faisons appel d'ailleurs à tous ces fils guinéens, Mina, qui ont des particularités, des connaissances à vouloir partager avec nous. Sifio Academy est une académie libre. Et même chose pour vous, si vous voulez nous apprendre quelque chose, il faut qu'on restitue à nos populations le peu que nous avons. parce qu'on pense qu'on le leur doit.
Oui, ouais. C'est important. Alors, Monsieur Messon, vous allez rester avec nous hein, pour. Je sais que déjà à partir de midi, hein, le principe de l'émission, c'est que des gens peuvent facilement alors poser des questions à travers nos deux numéros. Donc, certainement qu'il y a des gens qui auront des questions à vous poser concernant alors ce festival. Mais nous allons continuer même d'ailleurs nos débats ici en studio. Vous restez avec nous, bien sûr. Merci. Alors, chers confrères, quand on prend surtout cette fête traditionnelle des peuples guéminants, ça a été vraiment justement une ferveur, c'était dans une ferveur totale alors que cela a été fait. Et aujourd'hui, c'est la nouvelle année hein, de ce pays guéminant ou de ce peuple alors guéminant. Alors, Germain, finalement, quand on parle de nos traditions, c'est toujours à valoriser. Hein.
Oui, c'est effectivement à valoriser. Et je crois que ça fait plaisir quand nous voyons des initiatives comme celle qui vient de nous être présentée, portée par des jeunes qui, on le constate malheureusement pour la plupart, étaient un peu éloignés hein, de nos traditions. Vous savez, la nouvelle religion, la ville, la télévision, Internet et tout cela, le cinéma et tout cela, a fait que beaucoup aujourd'hui ont pratiquement tourné le dos donc à leur tradition. Et heureusement que depuis une quarantaine d'années, il y a ces fêtes traditionnelles-là qui sont célébrées dans toutes les préfectures, dans toutes les régions. Et qui sont réellement de vrais moments de rencontre, de retrouvailles, de cohésion et de visite de nos traditions. Et je crois que c'est vraiment important que chacun fasse l'effort, où qu'il soit, quand ce moment-là arrive, de rallier sa localité, parce qu'effectivement, c'est de vrais moments de partage et de retrouvailles. Nous, depuis le mois de juillet, nous avons pris sur nous de visiter un maximum de fêtes traditionnelles et ce qui se passe est assez extraordinaire. Donc vivement que les jeunes Togolais et les Africains en général, en ce moment où on parle de panafricanisme et on veut se réveiller, il n'y a pas un vecteur aussi puissant que la culture, que nos traditions qui va nous motiver et nous donner de l'énergie pour ce réveil-là que nous souhaitons sur le plan politique, sur le plan économique et dans un certain nombre de domaines. Donc il faut revenir forcément aux sources, il faut aller puiser de l'énergie, il faut aller se retrouver, célébrer ce que nos grands-parents célébraient avec beaucoup de joie et que pour certains aujourd'hui, on pense que c'est archaïque, on pense que c'est dépassé. Et quand moi je vois par moments des gens vous rencontrer en ville, quand vous les voyez lors des fêtes traditionnelles, totalement métamorphosés à fond dans leur culture. Je pense que ça fait plaisir. Et aujourd'hui, il faut que l'État togolais encourage cela, mette des activités annexes ou encourage des initiatives portées par des promoteurs culturels, donc en marge de ces fêtes-là, les soutenir pour qu'il y ait plus d'attrait, pour qu'il y ait plus de mobilisation. Et que nos jeunes frères et nos enfants puissent retourner aux sources régulièrement, ne serait-ce qu'en ces moments de fête traditionnelle.
D'accord. Oui, Fémin, c'est vrai que tout récemment, nous avons vu le Grand Lomé ou les trois communautés du Grand Lomé qui ont célébré aussi leur fête traditionnelle du Nyonzan. Et cette fois-ci, c'est le peuple guéminant également qui célèbre sa fête traditionnelle. Et au-delà de tout, c'est en quelque sorte la célébration de l'identité culturelle et que cette identité, on doit faire de notre possible alors pour la retrouver.
Oui, on doit faire possible, de notre possible pour la retrouver. C'est ça. En fait, il faut reconnaître que ce qui est fondamental dans la vie, c'est la spiritualité. Aujourd'hui, il faut reconnaître que nous sommes perdus. Tous les Africains presque, surtout nous chrétiens, nous sommes fondamentalement perdus. Parce que on a oublié que, en réalité, quand Dieu a créé le monde, quand il te positionne quelque part, il sait pourquoi il t'a positionné là. Et ta vie dépend d'où tu viens, en réalité. Quand on parle de tradition aujourd'hui, c'est ça notre identité, c'est ça ce que nous sommes. Au fait, c'est parce que nous n'avons pas fondamentalement compris la Bible que nous nous perdons. sinon tout est dans la Bible. Quand on parle de tradition, ça veut dire notre identité, ça veut dire d'où nous venons et où nous sommes en train d'aller. C'est comme je disais à quelqu'un l'autre fois, que quand tu vas chez un féticheur, il te dit tu ne dois pas manger ci, tu ne dois pas manger ça. Au fait, il n'invente rien. Il te parle même de ta spiritualité. Jésus a dit, vous êtes des dieux, au fait. Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Il est allé plus loin en disant, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Nous, chrétiens, on ne comprend rien de tout cela. En réalité, ceux qui essaient de valoriser aux yeux les traditions, moi, je dis que ce sont des gens à féliciter. Et ce, quand tu es chrétien, tu dois t'appuyer, bien sûr, sur ta Bible, bien sûr, pour pouvoir aussi valoriser ta tradition. Mais ne pas rejeter ce que les autres font. Parce que tu ne maîtrises pas fondamentalement ce qu'ils sont en train de faire. Moi, je souhaiterais bien que beaucoup de prêtres, beaucoup de pasteurs arrivent à expliquer fondamentalement ce que veulent dire nos traditions. Sinon, on va évoluer sans pouvoir véritablement évoluer.
D'accord. Thierry, quand on parle de la tradition, aujourd'hui, finalement, c'est quelque chose que nous avons délaissé tout ça.
Oui, vous savez, la vie est un choix. Hein. Vous choisissez de quel côté vous voulez vous positionner. On ne peut pas critiquer ou du moins se refuser à ceux qui ont choisi de ne plus être dans les traditions ou bien ceux qui ont choisi d'autres religions. Tout est question de conviction, tout est question de croyance. Donc, chacun choisit. Parce que, vous savez, Dieu ne peut pas être Dieu s'il n'a pas d'adorateur. On ne peut pas parler de Dieu s'il n'y a pas d'adorateur. Donc, Dieu est Dieu parce qu'il y a nous, les hommes, à grand âge, qui l'adorons. Maintenant, chacun est libre de se positionner. Ce qui s'est passé dans les lacs hier, je crois, ils sont à plus de 300 et quelques
61.
Voilà, prises de pierre. Mais aujourd'hui, beaucoup ne se retrouvent plus dans cette culture-là. C'est vrai que ça continue de mobiliser des gens. Les gains. Et vous avez ajouté autre chose là.
Gain Milan,
voilà. Oui. Les Gain Milan. Ceux qui sont dans la diaspora, beaucoup reviennent pour assister à ces festivités-là. Je crois que moi-même, je ne suis pas l'un de ces festivités. Il faut dire que c'est bien pour celles et ceux qui les observent encore. Mais ceux qui ont fait un autre choix ne pense pas qu'il faut continuer dans ce sens-là. Maintenant, le message qu'il a donné, sauf qu'ils ne reviennent pas nous dire avant la prise d'une nouvelle pierre, est-ce que tout ce qui a été donné, parce que les messages sont toujours accompagnés de cérémonies et c'est des prisages. Ils ne nous disent pas par après que tout ce qui a été annoncé a été observé ou bien a été obtenu au cours de l'année en question. Donc, à chaque fois, on ne fait qu'enchaîner les messages. Les messages, et finalement, c'est la politique qui est rentrée dedans, ce qui fait que la pratique même en elle a perdu en quelque sorte, je ne sais pas s'il faut parler d'essence ou bien son côté.
La substance.
Voilà. Donc, il faut encore beaucoup d'années pour que les gens se retrouvent là-dedans. Alors, quand il parlait de son festival Sifior, je croyais qu'il voulait parler de ce que j'ai l'habitude de manger chez Dadede, que je salue de passage. Je crois qu'elle est convalescente et nous croyons qu'elle va se rétablir très, très bientôt. Bonjour à toi, Dadede.
D'accord. Oui, mais monsieur Anani, c'est vrai que quand on parle de nos traditions, et, c'est vrai, on assimile cela à beaucoup de choses et on a tendance même d'ailleurs à diaboliser nos traditions de telle enseigne qu'au fini, nous sommes, comme le dira l'autre, en voie de perdition.
Un peuple épanoui est un peuple qui reste marié à sa tradition. Mais il y a un souci majeur. Et ce souci, je pense que peut-être ça vient de la manière dont nos fêtes traditionnelles sont organisées. Parce qu'à un moment donné, moi, j'ai comme l'impression que il y a un manque de distinction claire entre ce qui est tradition et ce qui est religion. Mm-hmm. Par exemple, lorsque quelqu'un est chrétien et que il a cette volonté-là de s'attacher toujours à sa tradition, est-ce qu'il y a un moyen de lui faire comprendre que, bon, voilà, lorsque tu t'attaches toujours à ta tradition, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Tu peux toujours être chrétien, comme tu l'entends, mais toujours s'attacher aux valeurs traditionnelles. Il y a ce problème-là de clarification pour ceux-là qui, émanant d'un peuple, par exemple, dans ce cas précis, le peuple Gemina, se sont, à un moment donné, dirigés vers des religions qui ne sont pas forcément des religions qui viennent de chez nous. Mais comment arriver à faire un brassage entre leur religion et la tradition qui est la leur? C'est ça le problème réel. Mm. Bon, moi, je vais jeter des fleurs au monsieur pour ce qu'ils sont en train de faire.
C'est monsieur Messin.
Monsieur Messin, voilà. Pour ce qu'ils sont en train de faire et à travers lui, au peuple guin tout entier, au peuple guin minant, et à tous ces peuples-là qui, dans les semaines qui se sont écoulées, nous ont montré de belles choses à travers leur festival, leur tradition, leur fête traditionnelle. Mon souhait est ceci, qu'au-delà de l'apprentissage, au-delà de la découverte que représentent ces fêtes traditionnelles pour les autochtones et aussi pour des peuples qui ne sont pas forcément issus de ceux-là qui fêtent, mon souhait est que ces occasions de fête-là soient des moments fédérateurs pour ce peuple togolais ensemble. Que lorsqu'on fête, par exemple, que le Kabiya, par exemple, se retrouve dedans sans grande difficulté, que, quelqu'un de Lakposso, par exemple,
les Moba
facilement se retrouver et qu'on puisse... voilà.
D'accord. Oui, mais Fimé, c'est vrai que Thierry a évoqué quelque chose de très important maintenant. Et c'est vrai, c'est un constat quand même triste. Hein, un triste constat, comme on a l'habitude de le dire. C'est la politisation même d'ailleurs de nos fêtes traditionnelles. Et finalement, allez, aujourd'hui, on a comme l'impression que nos fêtes traditionnelles sont totalement dénaturés.
Non, en fait, ça, c'est une erreur. C'est une erreur parce qu'on ne s'amuse pas avec la spiritualité. La politique n'a rien à voir avec le fait traditionnel. Parce que, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les traditions qui nous définissent. Quand vous détruisez la tradition, le Dieu qui parlait ne va plus parler. En fait, quand vous allez chez un Dieu et il parle, vous allez chez l'autre, vous allez constater que c'est la même chose. Parce que Dieu qui a créé le monde, il a planifié que l'année sera comme ça. Alors, c'est Dieu-là chez qui vous allez et qui vous donne des messages. C'est ce message divin du grand Dieu qu'il donne. Parce que les autres dieux n'ont rien inventé. Il y a quelqu'un, il y a un seul créateur. Vous allez chez Bokono, il va vous parler de ce créateur. Vous allez chez d'autres divinités, ils vont vous parler de ce grand créateur. Mais le fait que les politiques essaient de mettre en place des moyens pour dénaturer...
Instrumentaliser, si vous voulez.
Instrumentaliser, moi, je ne suis pas d'accord. Parce que ce n'est pas bien. Parce qu'on ne peut pas vivre sans le spirituel. J'ai dit tout à l'heure qu'en réalité, ce qui me définit, c'est la spiritualité. Quand vous ne connaissez pas votre spiritualité, ça veut dire que vous êtes mort. Je suis un peu Thierry. Je pense que c'est notre problème que nous avons, nous, chrétiens. En réalité, ce qui se passe en Europe, c'est la même chose que faisaient les Israélites. C'est-à-dire, à la fin ou en début de chaque année, vous devez aller chez votre Dieu créateur et lui demander, et vous mettre dans une certaine posture et lui demander comment sera l'année. Quels sont les sacrifices que nous devons faire? Quel est le message que tu as? Est-ce qu'il y a un message bon ou est-ce qu'il y a de mauvais présages? Alors, en fonction de cela, on fera tel sacrifice. C'est ça, au fait, dans presque toutes les coutumes. Quand vous êtes peut-être dans une localité, vous avez aussi un message propre à cela. C'est comme quand vous êtes un chef d'État, le président de la République du Togo, par exemple. En réalité, quand vous êtes un chef d'État, en début de chaque année ou la fin de chaque année, vous devez appeler, par exemple, si vous êtes chrétien, les prophètes, les grands pasteurs, les grands prêtres, pour leur demander comment sera l'année. Parce que vous, le père spirituel de ce pays, comment sera l'année? Et ils vont aller prier. En fonction de ce message, vous allez agir. C'est ce que fait, c'est ce qu'on fait à Néron. C'est ce qu'on fait peut-être à Kara. Peut-être nous, on ne dévoile pas le message qu'on délivre là-bas. Sinon, c'est la même chose. C'est ce que nous, chrétiens, devons faire. Quand on dit oui, on se fout.
Mais vous faites plus la fixation sur les chrétiens.
Oui,
il y a aussi d'autres religions. Hein?
Non, oui, non. J'ai l'impression que c'est nous qui blaguons le plus. on se dit Bogbombe Tchotchi, mais on est loin d'être Bogbombe Tchotchi. Parce que la spiritualité, on ne blague pas avec la spiritualité. Quand vous voyez dans toutes les religions, les pratiques spirituelles sont presque les mêmes. Quand vous allez chez l'islam, on parle de sacrifice. Quand vous allez chez les chrétiens, on parle de sacrifice. Quand vous allez chez les vaudous, on parle de sacrifice. C'est-à-dire c'est la méthode peut-être qui diffère. Mais les pratiques sont les mêmes presque. Vous comprenez? Donc moi, je dis en réalité, quand on envisage faire ce genre de cérémonie, que tu sois d'une religion ou d'une autre, qui n'est pas peut-être des gamina, mais tu dois être attentif au message qu'on délivre là. Parce que ça t'engage, que tu le veux ou non, c'est comme ça sera l'année. C'est que tout le monde, ou que les gens me disent qu'ils ne rêvent pas. Mais du moment où Dieu ne t'a pas permis de rêver, comment sera l'année, mais écoute un peu ce qu'on dit de l'autre côté. C'est comme quand, moi je m'amuse pas en fait, quand je passe et je vois même un fou qui me délivre, mais qui me dit, hey, tu vas où? Ne va pas là. Je ne sais pas parce que je suis chrétien que je vais m'abstenir de l'écouter. Ça veut dire qu'il y a peut-être un esprit où Dieu est en train de passer par lui pour me parler. Donc, ne négligeons pas ces messages spirituels. Pour conclure, je vais donner un petit exemple. C'est comme il y a une jeune fille que tout le monde connaît dans ce pays. Un jour, elle a dormi. Et le lendemain, elle s'est réveillée. Et son ami est venu lui dire, la voir, c'est une fille. Et puis, elle dit à l'ami, vous savez, oh tu sais, oh, je me suis cogné la tête. Et demain, il y a du sang qui sortait de mes narines. Donc, après leur discussion, elle a raccompagné l'ami. Donc, elle est revenue et après, elle dit, j'ai mal à la tête. Avant qu'on la mette à l'hôpital, elle meurt. On fait appel à l'ami et c'est là où l'ami lui disait que rêver, c'est ce que la dame me racontait. Qu'est-ce que je veux essayer de démontrer? Ce que je veux essayer de démontrer est très simple. Le rêve-là dont la fille a parlé, c'est ce message-là qu'on délivre par rapport à nos années. C'est-à-dire, si tu fais un rêve ou si on te délivre un message, si tu ne fais pas les sacrifices appropriés, soit tu vas subir, ou soit tu vas en profiter.
D'accord. Ok, nous allons quitter le sujet. C'est le sujet que je voudrais très intéressant.
Non, il y a...
Non, mais rapidement, Germain.
Sur la politisation.
Oui, Germain, rapidement.
Les fêtes traditionnelles ont été valorisées, entre guillemets, par une décision du président Ehadema en 1973, où il a pratiquement obligé toutes les préfectures à célébrer leurs fêtes traditionnelles. Vous verrez qu'aujourd'hui, cette année, pratiquement toutes les fêtes sont à leur 51e édition, sauf les anciennes fêtes comme celle d'Aniho qui sont... Voilà. Ça dit que depuis 73, dans les régions, dans les préfectures, on a obligé les gens pratiquement à revenir à ça. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Maintenant, quand il s'agit, par exemple, de la couleur de la pierre à l'époque, avec ce à quoi on a assisté, tout ça, on peut... Quand il s'agit aussi, peut-être, quand certains disent, voilà, telle fête, toutes les autorités sont là-bas, les bureaux sont vides à Lomé et tout ça. Mais l'idée, moi, je crois qu'à chaque fête, il faut faire en sorte qu'un maximum d'autorités aillent à toutes ces fêtes, plus ou moins de façon équitable. Et quand les autorités vont, je crois, pour les organisateurs, pour la population aussi, ça donne du poids à ces célébrations-là. Il faut souhaiter... Au-delà du ministre de la Culture, souvent, qui sillonne ces fêtes-là, que d'autres autorités y aillent. On a vu que des sponsors aussi se mobilisent.
Par exemple, hier, bien sûr, c'est Madame le Premier ministre qui était à Nero.
Voilà. Donc, il faut qu'il y en ait. Car souvent, on cite l'exemple des Evala Kara, où on estime qu'il y a pratiquement... Voilà. Donc, il faut que sur les autres régions aussi, et ça favorise le tourisme local.
D'accord.
Ça fait que les gens retournent chez eux. Okay, les hôtels,
oui,
ça marche.
Oui, vous permettez, je place juste un mot.
Oui,
alors, quand Fiemer disait que le message à apporter s'étale sur toute l'année et que les gens doivent se retrouver dans ce message-là, ce que je voulais dire, c'est que comment vous voulez que les gens se retrouvent dans ce message-là quand ceux qui apportent le message ne sont pas sérieux?
Comment ça?
Ah oui, c'est tout le débat aujourd'hui, parce que quand la politique est rentrée dedans, à une année donnée, je crois, il y a eu deux prises de pierre. Quand il y a ce bordel-là, comment voulez-vous que les gens se retrouvent encore dans ce message-là? Ça a envoyé comme image, comme ceux qui vont dans le couvent, si je peux m'exprimer comme ça, pour aller prendre la pierre, ne sont pas sérieux.
D'accord.
Donc, quand c'est comme ça, parce que quand on parle du spirituel, il y a tout un sérieux qui entoure la chose. C'est-à-dire que quand Jésus est venu, il a dit d'être comme lui. Il a été un modèle. Maintenant, si dans nos traditions, ceux qui se conduisent ou incarnent ces traditions-là ne sont pas sérieux, okay, comment voulez-vous que...
Non, mais on ne va pas prendre non, comme toutes les minutes pour parler que de ce sujet.
Non,
mais attends, c'est comme ça.
Non, une seconde juste. En fait, non, Thierry, s'il vous plaît, Thierry, je ne sais pas si vous m'écoutez.
Oui, je vous suis.
Je vous réponds avec ce petit mot. Vous imaginez, vous êtes dans une maison avec une prostituée. Mmh. Et vous êtes chrétien. Mmh. Et chaque fois, vous lui dites, ne fais plus la prostitution. Mmh. Et du jour au lendemain, mmh. elle vient et dit, Thierry, j'ai rêvé que tu vas mourir. Mmh. Tu vas prendre ça au sérieux?
Non. Dans la Bible, firmez.
Non.
Attendez.
Bon.
Allez, c'est ça le sujet. Là, vous dites, Dieu se fout en réalité. Dieu peut envoyer.
Non,
un message.
Cher ami.
Par le biais d'une prostituée. Par le biais d'un pécheur. Par le biais d'un modèle.
Vous n'êtes pas un modèle.
On ne va pas parler alors de la culture au cours de ce sujet. Nous avons beaucoup de sujets. Mais déjà, nous avons pris assez de temps avec la culture. Monsieur Bessant, vous voulez placer un seul mot?
Non, moi je veux juste dire qu'arrivé un moment, il faut qu'on arrête. Quoi, parce que,
D'accord.
Faut que nous comprenions.
D'accord, c'est compris.
Parce que moi, je vois que depuis des années, on ressasse toujours cette histoire de. Il y a eu deux prises de la pierre.
Et nous, mais malheureusement, ça s'est passé.
Si je peux. Non. Ouais, mais à vous de. Bon, c'est une façon de jeter du discrédit.
Moi, pas plus que cette semaine, j'ai discuté avec un prince.
S'il vous plaît.
C'est bon. Tout à fait. D'accord, c'est bon. Monsieur Vincent, le message est passé. Alors, oui, mais j'aimerais. On va parler d'un autre sujet. C'est ce sujet, alors, d'enlèvement de frères. On vit à Lomé. On se souvient. C'est le 12. Août dernier, bien sûr, que cela s'est passé. Il y a même le procureur de la République qui parlait de kidnapping. Il y a le journal Canal D qui est revenu même d'ailleurs sur le sujet, qui parlait alors de l'enlèvement de frères Honvi. Je lis ce qui est écrit alors à la une alors du journal. Enlèvement de frères Honvi à Lomé, méthode de gangster du régime de Talon, des zones d'ombre demeurent vers un refroidissement diplomatique, la réaction du Togo très attendue. Alors, Germain, quand on prend ce sujet-là, à un moment donné, on se dit, mais comment se fait-il qu'on peut avoir un tel fait, une telle situation, sans que le Togo, je veux bien parler alors des autorités togolaises, ne soient informées?
Ben, c'est possible qu'elles ne soient pas informées. Vous savez qu'on ne peut pas mettre un gendarme derrière chaque citoyen. Autrement, on aurait 8 millions de gendarmes qui... Donc, c'est possible que des choses arrivent. C'est comme un braquage ou quelque chose qui arrive dans une maison. On ne peut pas dire comment ça s'est produit sans que la police ou la gendarmerie ne soient informés. Mais après, l'idée que les gens ont sur la coopération en matière sécuritaire, c'est qu'ils se disent la police d'un autre pays ne peut pas venir sur un sol s'il n'y a pas de collaboration. Et avec la sortie donc récente... Le procureur en a compris qu'il n'y avait pas cette collaboration. Parce que du côté du Bénin, certains réfugiés ou exilés, des gens qui ont fui sous le régime Talon, beaucoup sont réfugiés ici à Lomé. Et ils se disent, mais si on n'est pas en sécurité, c'est grave. Ça veut dire qu'à tout moment, on peut venir nous chercher de cette même manière. Et donc, cette sortie du procureur a montré... Effectivement, il n'y avait pas de collaboration, que des gens ont violé toutes les règles qui régissent la coopération militaire. Ils sont venus se comporter, comme l'a dit le journal, en véritable gangster, comme les enlèvements auxquels on assiste au Nigeria de plus en plus. Donc, c'est pour un État. Je crois que cette méthode-là, c'est déjà un manque de respect pour le Togo. Et c'est un acte de gangstérisme, comme l'ont dénoncé certaines organisations de la société civile au Togo. Il aurait fallu tout simplement, comme ça se fait à travers les pays, de passer par Interpol et que les polices collaborent et que s'il y a quelqu'un à rechercher, s'il n'a pas un statut de réfugié, c'est exceptionnellement quand il s'agit de réfugiés qu'on ne peut pas remettre au pays qui le recherche parce qu'on estime que sa vie... serait en danger, qu'il y a une menace réelle sur son intégrité. Et donc, s'il n'est pas un réfugié ici, il fallait collaborer normalement, comme ça se fait dans le cas du terrorisme, dans le cas du grand banditisme. Nos policiers, nos gendarmes vont dans des pays arrêter des gens et revenir, mais c'est en collaboration avec ces pays-là, ce qui n'a pas été le cas du Bénin, qui a vraiment opéré un enlèvement. Mmh. C'est un axe de gangsterisme.
D'accord. Ok, oui. Thierry, oui, c'est vrai que quand on prend déjà le fait, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui a été enlevé au niveau alors de d'Adido Gomé, et je ne sais par quelle frontière même d'ailleurs on l'a pris jusqu'à ce qu'on aille à Cotonou avec, et mais à un moment donné on a l'impression de se poser la question de savoir mais qu'est-ce qui n'a pas marché en matière sécuritaire chez nous.
Alors est-ce que quelque chose n'a pas marché, parce que ce que je sais c'est que nous avons un pays très renseigné. Mais je ne sais pas comment ça s'est passé et qu'on est venu chercher le frère Houy chez nous. Et c'est un précédent dangereux. Le Togo n'aurait pas réagi, ça serait regrettable. Heureusement que le procureur s'est prononcé sur le sujet et que déjà deux personnes ont été arrêtées. Je ne sais pas ce qui a amené l'État béninois à se comporter de la sorte. On aurait pu solliciter les autorités togolaises et que peut-être les autorités togolaises allaient mettre cette personne en question à disposition de l'État togolais, mais ça n'a pas été fait et qu'ils ont osé venir chercher jusqu'ici le frère Houy. Je crois que le Togo doit hausser davantage le ton pour que cette affaire-là soit clarifiée. Au même moment, je crois que ça va se jouer diplomatiquement, parce que vous savez que le Togo, sur le plan de la diplomatie, se positionne. Je ne sais pas trop comment une solution va être trouvée à cette affaire-là, parce que ne perdez pas de vue que tout ceci a commencé avec l'arrestation de Rekia Madougou jusqu'à son jugement. Je ne sais pas, ça refroidit un peu les relations entre les deux pays, mais je sais que le Togo ne va pas se taire. On attend de voir, parce que comme l'enquête est en cours, le monsieur arrêté est en train de citer des noms. Et
il y a un mandat d'arrêt international
aussi contre ceux qui sont venus arrêter le frère Houy ici. Donc, on attend de voir ce que ça va se donner. Mais tout ça là, c'est compliqué, parce qu'avec les affaires des États sahéliens, tout ça là, c'est très compliqué. Mais le Bénin aurait pu éviter ce qui vient de se passer, et puis on serait en paix, parce que là c'est comme c'est une guerre qui nous est déclarée. Il peut arriver que des opposants au régime togolais se retrouvent au Bénin, mais le Togo n'est jamais allé chercher ses opposants, ou encore des opposants togolais au Ghana, ou au Burkina, au Mali, dans d'autres pays. Jamais le Togo n'est allé chercher ses opposants-là. Je ne sais pas de quel droit le Bénin s'est permis pour poser cet acte-là. Espérons que des solutions diplomatiques seront trouvées à cette affaire.
Kofi, c'est vrai que quand on prend le sujet en lui-même, on voit que des organisations de la société civile d'ici et également du Bénin ont dénoncé ce fait, cette situation. Et quand on voit même d'ailleurs aussi les procédures diplomatiques, le Bénin n'a pas utilisé même d'ailleurs de l'élégance en matière alors de diplomatie envers le Togo.
Parce que c'est une affaire extrêmement grave. Et pour moi, c'est une gifle que nous venons de recevoir de la part de l'État béninois. Une véritable gifle. Et je pense que c'est grave que quelqu'un se permette de rentrer dans votre maison chercher ce qu'il pense lui appartenir. Même si cette chose-là lui appartient, il faudrait que la personne puisse passer par des procédures. Et en matière de diplomatie, en matière légale, il y a des procédures à suivre. L'aîné venait de le dire tout à l'heure. que lorsque la personne est un réfugié, c'est dans ce seul cas-là qu'on ne peut pas remettre la personne à l'État qui le veut. Alors, est-ce que le Bénin est passé par les procédures normales? Non. La manière dont ça a été fait, c'est comme les bandits prennent possession des gens au Nigeria voisin. Et c'est grave. Ce que moi je vais demander, c'est que l'État puisse situer les responsabilités réelles dans cette affaire et que l'État puisse sévir pour que demain le Bénin ou peut-être le Ghana ne se prête pas à ce genre de jeu dangereux.
D'accord. Oui, mais Firmin, c'est vrai que, est-ce que finalement, tel que l'a dit M. Kofi tout de suite, est-ce que ce n'est pas un jeu dangereux ça?
Non, vous savez, moi je m'étonne que les gens se focalisent sur le Bénin. Attendez, mais Talon, il se moque de nous. C'est un manque de considération terrible. Il ne nous considère nullement. Il a dit, c'est amusé avec nous, quoi. Vous imaginez? Il a dit, entre-temps, il était en froid avec le Togo par rapport à Kiamadougou. Et du jour au lendemain, il veut s'amuser un peu avec nous. Et il envoie ses hommes aller chercher Houmbi. Et puis, on l'a amené facilement. Houmbi est passé par où? Par quelle frontière? Et puis, on parle de grand banditisme. Talon, il va se moquer de nous. Quoi que vous puissiez dire, il a réussi son coup. C'est un manque de considération à notre égard. C'est à nous de nous reprocher un certain nombre de choses. Il y a une faille dans notre système sécuritaire. Ou soit on a vu Houmbi, on a vu prendre Houmbi et puis on s'est tué. Ou soit, mais on se demande ce qui s'est passé. Moi, je ne peux pas me focaliser sur Talon, c'est nous qui avons subi. Ça veut dire, mais on parle d'État, on voit un chef d'État qui ordonne à ce qu'on vient enlever un de ces gars ici facilement et puis parti. Puis on dit, grand baptiste, oui, lui, il sait qu'il est un bandit, il sait qu'il est un voyou, il sait qu'il est en foi avec Fonessi, mais il s'en fout, il continue. Et il l'a encore fait. Et il l'a prouvé. Et on peut se focaliser sur lui. Non, à nous de reprocher un certain nombre de choses. Que Talon soit bandit ou pas, moi, je m'en moque. Mais c'est à nous. C'est nous qui subissons. Il manque de considération à l'égard de notre président de la République. Il manque de considération à notre égard. Il ne nous considère nullement. C'est à ce niveau que nous devons commencer par nous reprocher un certain nombre de choses. Soit le président de la République va appeler toute sa sécurité pour dire qu'est-ce qui s'est passé. Ce n'est pas Talon. Talon se moque de nous. Parce que en faisant cette lecture, je me suis dit non, ce gars, je parle de Talon, il va partir. Parce que celui qui va durer au pouvoir ne peut pas se permettre ce genre de bêtises. Il se dit, il est dans son dernier mandat, il se fout de personne, il fait, et puis il part. Il retourne à ses affaires. Sinon, il va partir. Donc, mais avant de partir, il règle des comptes. Il ne considère pas, il manque de respect à Fonia Singbe. Donc, évitons de nous focaliser sur Talon ou sur grand baptisme. Moi, je ne suis même pas d'accord.
D'accord. Oui, mais j'avais.
Oui, non, non. Après, moi, le fait qu'il vienne opérer au Togo n'a rien d'extraordinaire. Hein. Non.
Comment ça, ça n'a rien d'extraordinaire?
Non, je vous donne deux exemples. Oui. Vous avez un pays comme Israël, qui est l'un des plus renseignés au monde. Vous avez vu ce que l'armée a fait en octobre dernier, sans qu'ils ne voient rien. Mais ils sont. On ne peut même pas nous comparer. Les États-Unis.
Non, c'est la spécialité d'Israël.
Bon, oui, on ne peut pas dire.
Non, c'est parce qu'ils ont profité de la fragilité de la sécurité à l'époque.
Il n'y a pas de sécurité totale. Et comme je le disais, mais les gendarmes, les policiers, les militaires, c'est des hommes aussi. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Même quand vous utilisez la technologie. Hein, comme en Chine, avec des caméras, un certain nombre de choses, il y a toujours des failles. Tant que des individus viennent enlever un autre individu, n'a rien d'extraordinaire. On ne va pas dire que bon, nos forces de sécurité ont failli. Non. D'abord, ils sont venus de façon comme des gangsters, en fait. C'est comme ça, c'est les hommes que je donnais. C'est comme s'il y a un braquage, vous dites, mais le policier était où, on est allé braquer telle maison. Il n'y a pas de sécurité à 100%. Maintenant, ce qui choque ici, c'est l'État béninois qui est venu opérer. Ce n'est pas des civils, mais ils se sont comportés comme des individus. Pourquoi ne pas coopérer, puisqu'en la matière, il y a Interpol, il y a des règles. Il faut chacun. Nos gendarmes vont chercher des gens régulièrement au Ghana, les gens qu'on présente à la télé parfois.
Mais là, c'est de la règle.
Ce n'est pas ici qu'on les a arrêtés. Donc, il y a une coopération. On sait que vous venez, on vous aide même. Aller récupérer le colis, comme ils disent un peu dans leur jargon et tout ça. Mais voilà, mais maintenant, ça n'a pas été fait.
Non, non, ici...
C'est là où, moi, je vois le manque de respect. Le fait de n'avoir pas coopéré...
Avec l'État togolais.
Voilà, mais le fait d'opérer comme des bandits, c'est possible. C'est possible dans tous les pays. Tous les pays, ça peut se faire.
D'accord, oui.
Non, je reviens juste sur ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit, mais le fait... d'avoir ou de n'avoir pas choisi la voie de l'Interpol, c'est considérer le Togo comme un pays où je peux aller chercher mes gars, c'est-à-dire il se dit bon le pays là bon on se fout de ce pays, on peut aller chercher.
C'est ou ça peut-être qu'il le considère comme le prolongement du Bénin.
Oui. Non, il s'est dit non que les gars là, mais... non, il s'est... en fait c'est ça qui m'énerve. Moi je veux pas parler de nos forces de défense. Ça, c'est... Non, mais c'est comme il se dit bon c'est ces gars là bon je me fous d'eux quoi, je fais de dans ce pays ce que je veux quoi, c'est ça qui m'énerve moi. C'est un manque de respect à notre égard.
D'accord. Oui Thierry, nous allons quitter hein, ce sujet. Parlons maintenant de la déclaration de la politique générale du gouvernement, le gouvernement de transition. C'était le vendredi dernier, bien sûr, que madame le Premier ministre et toute son équipe hein, étaient devant l'Assemblée nationale pour cette déclaration. Alors, déjà, quand on prend cette déclaration avec la feuille de route gouvernementale, on voit des axes, bien sûr, alors de cette feuille de route. Finalement, qu'est-ce que les Togolais doivent s'attendre alors de cette déclaration de politique générale?
Vous savez, quand on parle de la feuille de route, je fais partie de ces Togolais qui ne maîtrisent pas forcément son contenu. Moi, on peut m'accuser parce que je suis journaliste. Je devrais chercher ce document-là et savoir sur quoi ça porte.
Tout à fait.
Parce que quand cette semaine, il y a eu tout ce balai médiatique des ministres qui, en quelque sorte, faisaient le bilan de cette feuille de route-là. Parce que quand on a dit que la réalisation est jusqu'à 75%, je me suis posé des questions. Mais 75% et puis notre pays est toujours dans cet état-là. Mais je me pose des questions. Bon, peut-être... la seule chose d'extraordinaire que j'ai vue qu'on nous annonce, c'est peut-être la réception la dernière fois de ces matériels
médicaux.
Et je crois, depuis hier, je vois des titans au niveau du CHU. Je crois comprendre que c'est la répartition qui a commencé. Mais 75%, mais Pascal, vous et nous, on se pose des questions. 75% et notre vie n'a pas aussi changé. Bon, c'est vrai. Et cette feuille de route-là, on nous parle de trois axes principaux. Mais nous, c'est notre vécu quotidien. C'est ça le changement, en fait. Il y a beaucoup de choses que nous voulons voir, mais que nous ne voyons pas. Et pourtant, on nous dit que c'est réalisé. Donc, peut-être que...
Vous n'y croyez pas?
Non, c'est pas que je ne crois pas, mais quand on me parle de 75%, qu'il reste 25% à réaliser, comme je n'ai pas le document, je ne suis pas en mesure de mesurer que peut-être on a dit qu'on va construire... je sais qu'on a construit des écoles, je sais qu'on a construit des hôpitaux...
Ah, mais donc tout cela se trouve dans les
75%. Non, attendez. Mais il y a d'autres chantiers qui ont été ouverts qui n'ont pas connu d'aboutissement jusqu'à aujourd'hui.
Comme quel chantier?
C'est ça qui est dans les 25%.
Les 25%.
Non. Sauf que, comme c'est ouvert, c'est totalisé. C'est pour cela qu'on nous parle de 75%. Donc, on attend de voir.
D'accord, on attend de voir. Alors, justement, Kofi, quand on parle alors de 75% aujourd'hui, hein, de réalisation de la feuille de route gouvernementale, et finalement, est-ce que déjà ça répond vraiment aux aspirations alors de la population?
Pascal, je ne pense pas qu'il faille se focaliser sur le pourcentage d'exécution de réalisation de la feuille de route.
Puisque c'est un élément important.
Non. Moi, je pense que ce n'est pas sur cela qu'on devrait se focaliser. Il y a une chose que nous devons accepter, c'est que des efforts considérables ont été faits dans presque tous les domaines. Moi, il y a de ces efforts-là, quelques-uns qui retiennent mon attention. Le programme Wezou, par exemple, il y a les efforts de modernisation de nos universités, les efforts de construction d'une autre. Dans presque tous les domaines, lorsque vous voyez de près, vous allez voir que le gouvernement fait des efforts. Mais pour nous, ce qui nous intéresse, c'est que ces efforts-là puissent aller de l'avant, pour que le Togolais lambda puisse sentir...
Et qu'on ait l'impact,
que l'impact réel soit ressenti dans la vie de nos concitoyens.
D'accord. Oui, Firmin, quand on prend la feuille de route, finalement, la réalisation, telle que je me souviens, j'avais reçu le ministre Natsaba dans ce studio, c'était le mardi dernier, qui nous parlait justement du taux de réalisation, parlait alors de 75%. Finalement, est-ce que vous sentez vraiment l'impact alors de ces 75% de réalisation?
Non, tout récemment, on a débattu de l'IDEA, c'est indice de développement humain, où on est premier dans la zone humaine, ça fait partie des 75%. Ça fait partie des 115% sur le plan santé, sur le plan éducation. Peut-être vous ne sentez pas sur le plan santé, par exemple, vous n'avez jamais été enceinte. Donc, ce sont les femmes enceintes.
En pays guerre, on dit de ne plus.
de ne plus faire d'installation de votre grossesse. Ah, oui. Donc, les femmes enceintes en profitent. Par exemple, vous ne manquez pas d'école. Il y a des écoles qu'on construit, des gens qui n'avaient jamais eu d'école, mais des écoles bien construites qui en ont aujourd'hui. Donc, on dit il y a 25%. Bien sûr, il y a des choses que nous ne constatons pas. Mais quand vous allez à l'intérieur, moi, je l'ai dit tout à l'heure, la semaine passée ou surpassée, j'ai dit, mais il y a des zones à l'intérieur du pays. Quand vous y allez, vous notez un certain changement par rapport aux pistes rurales, par rapport aux nouvelles routes qui sont construites. Et moi, c'est là où je repose des choses au pouvoir. Je lui dis, il y a des choses que vous faites, mais quand vous ne...
Il n'y a pas de communication.
Mais on va rester à Lomé. Nous qui sommes toujours à Lomé, on va dire que vous ne faites rien. Donc, la meilleure des choses, c'est de communiquer. Parce qu'à l'intérieur, mais ce n'est pas, on n'est pas en train de mentir. Dans cette zone reculée, vous voyez des pistes, vous voyez des routes. On sait que le quartier n'avait pas de route avant. C'est des choses qui se font. Vous savez, on ne va pas, le Togo ne peut pas se développer en 5 ans. Non, il faut un certain nombre d'années. Et puis, il faut que... Moi, je l'ai toujours dit, je ne vais pas me répéter, mais il faut que de l'autre côté, au niveau de l'Occident, de ceux qui dirigent le monde, décident que vous vous développiez avant que vous ne vous développiez. C'est fondamental. On a décidé que le Rwanda se développera et le Rwanda se développe. Donc, mais pour le moment, ce que les gens veulent, c'est quoi? C'est de s'assurer 3 repas par jour. Quand on tombe malade, qu'on est à l'hôpital facilement. C'est-à-dire, moi, ce que je demande toujours à ceux qui gouvernent, que les premiers soins soient gratuits. C'est-à-dire, si quelqu'un arrive à l'hôpital, qu'on s'occupe de lui, qu'on lui dise pas, va chercher, va à telle pharmacie, oh, la personne se tord de douleur. Que les premiers soins soient gratuits. Si on arrive à avoir ça, mais je pense que les choses vont aller.
Peut-être que c'est dans les 25%.
Pour 25%, bon, je pense que Fonia Simbi, il en est conscient. C'est pour cela qu'il a fait de nouvelles entrées, par exemple, Goumado, que vous connaissez très bien. Isaac Tiakpe et le ministre Runaki. Donc, ils vont apporter aussi leur expertise. Peut-être avec leur expertise, ils vont combler les 25%.
D'accord. Germain, oui, feuille de route gouvernementale, il reste pratiquement un an, puisque c'est de 2020 à 2025, il reste pratiquement un an. Un an, la réalisation est à 75%.
Oui, 75%, c'est le chiffre que le gouvernement donne. Mais quand on est à Lomé, on a l'impression que c'est pas vrai. On se dit, mais ça veut dire qu'il ne reste que 25%. Ben, je vous donne un exemple. Moi, je suis rentré de Kara. J'étais allé aux Ivela. Je rentrais la nuit. J'ai quitté Kara après 16 heures. Mais tous les villages que je traversais étaient électrifiés. Et je voyais des business un peu partout. Dans des villages où, quand tu voyages le jour, tu ne te rends pas forcément compte. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, la dernière fois...
Vous parlez de Kara seulement? Sur toute l'étendue du territoire national?
Moi, j'étais dans la région des plateaux autour de 20h, 21h, puisque j'allais doucement. Donc tout ça, j'ai observé beaucoup
de choses. Mais là, vous avez observé que ce qui se passe à l'autre bord de la
route. Fortuitement,
vous allez à l'intérieur du...
Je te parle des villages, je ne parle pas des villes.
Des villages, c'est à l'intérieur, c'est pas sur la route.
Mais il y a plein de villages au bord de la route. Il y en a plein. Il n'y a pas que des villes. Il y a plein de villages. Et donc, il y a des projets ambitieux qui ont été lancés. Le projet CISO, le projet Tinga, par exemple, où on vous amène l'électricité, vous payez seulement à chaque fois que vous payez les factures. C'est des choses qu'on imagine.
Sauf qu'à Lomé, les gens cherchent de l'électricité.
Voilà. Donc, quand vous êtes à Lomé dans un quartier...
Les gens cherchent à être raccordés,
dans un quartier où
il n'y a pas de côté
électrique.
Tu as parlé. J'ai été gentil, je t'ai écouté.
Tout à fait, tu as été gentil.
Quand vous êtes dans un quartier où il y a des toiles d'araignée, où il n'y a même pas de l'eau, vous cherchez à faire difficilement un forage, vous dites non, ce n'est pas possible. Mais vous verrez que dans certaines zones, il y a des forages, dans des zones reculées. Donc vous avez l'impression, mais je comprends que le gouvernement ne communique pas assez. Nous aussi, on ne va pas à la recherche de l'information. Je suis un peu surpris que Thierry me dise qu'il n'a aucune idée du PND.
Il va évaluer ce PND.
La feuille de route. Non, j'arrive.
Je ne peux pas évaluer quelque chose
sur laquelle tu n'as aucune idée. Mais oui, vous comprenez. Maintenant, après, moi, je pense que nous, on doit, au niveau du CONAP, par exemple, on va lancer le tour médiatique du Togo. L'idée, c'est de voir un peu tout ce qui se passe au Togo. Nous avons pris un stand dans la foire Made in Togo. Et ce que nous avons vu en termes de production, on était ébahis. On voyait des choses, on disait ça c'est fait au Togo, on nous dit oui, on dit non, on ne croyait pas. Il se passe des choses, là je ne parle même pas du gouvernement, il se passe des choses extraordinaires au niveau des
unités
industrielles et tout ça, des initiatives privées. Mais nous sommes restés dans nos rédactions, que les gens viennent à nous. On a fonctionné comme ça depuis 30 ans, 40 ans. Maintenant il faut aller.
D'accord. Il y a
tellement de choses qui se font.
Okay.
Quand on se dit rien ne marche, mais effectivement le Togo bouge dans plusieurs compartiments et peut-être la presse devrait ouvrir l'œil, peut-être à travers le trou médiatique du Togo, on va se transporter, voir dans certains coins. Au niveau des initiatives privées, beaucoup plus, pas forcément uniquement pour le gouvernement, parce qu'il y a plein de privés, plein d'investisseurs, plein d'initiatives.
D'accord.
On ne soupçonne même pas l'existence de ces initiatives.
Merci beaucoup, Germain. Chers confrères, nous allons en arrêter là pour ce qui concerne le débat, puisque notre heure est déjà avancée. Nous allons faire un clin d'œil à nos annonceurs et puis après, nous allons donner l'opportunité à nos auditeurs de nous appeler sur le 90 86 35 35 ou le 91 36 63 75. Nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
Le plaisir pour l'acquérir. Écoutez Canal FM 93.5.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75. Alors pour participer au débat de ce vendredi 90 86 35 35 91 36 63 75, vous pouvez participer à ce débat à travers les deux numéros. Allô?
Allô? Bonjour.
Bonjour, Didier, comment vous allez?
Monsieur Pouli, monsieur Firmin, bonjour, comment ça va? Oui, moi je trouve que 75% de réalisation de la feuille de route, ça dépend de là où vous êtes. Si je prends par exemple M. Pouli et puis M. Firmin, ça se reflète dans leur comportement. Je le vois de plus en plus un peu éclairci, la barbe bien soignée, bien en costume.
Didier,
oui.
Oui, mais l'essentiel c'est que vous donnez votre avis sans quand même toucher
ça
quelqu'un.
De là où on est. Moi, je
oui, mais justement, donnez votre avis sans toucher quiconque alors sur le plateau.
Ok, je ne ressens pas dans... Moi, je ne ressens pas. Nous qui mangeons, trouvons à manger difficilement une fois par jour, on trouve que ce qu'ils nous disent, ça n'a pas d'impact sur notre vie quotidienne. Et puis, bon, comme vous voulez, je vais aller rapidement pour parler du frère Rovi. Mais ce qui m'étonne, nous ne sommes pas des enfants. C'est une histoire dormie debout. Quand vous avez parlé d'une maison, de quelqu'un qui est venu prendre quelqu'un d'avoir une maison, même si tu dis que c'est pour lui, quelqu'un qui vient prendre quelqu'un d'avoir une maison, vous ne protestez pas, vous ne protestez même pas, vous n'allez même pas dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous dites, vous lancez un mandat d'arrêt. Le bon sens voudrait que le Togo fasse une protestation diplomatique pour que nous puissions savoir ce qui s'est passé. C'est une histoire qui est à dormir debout. Je sais qu'on va me répondre que non, le Togo, c'est la diplomatie en sourdine, le Togo, c'est. On se positionne sur une diplomatie, mais la moindre des choses, c'est un fait très grave. Si c'est vrai ce qui s'est passé, le Togo devait protester énergiquement, diplomatiquement auprès du Bénin. On ne dit rien, procurer nous sort un document et puis nous sommes des enfants, on va croire tout ça dans les histoires. Moi, je ne crois pas à cette histoire. Hein. Je vous remercie.
D'accord, merci Didier pour votre intervention. 90 86 35 35. Allô?
Oui, allô?
Oui, bonjour, Pélé.
Bonjour, oui, c'est Pélé.
Oui, comment vous allez?
Oui, très bien.
D'accord, allez-y.
Bon, à ce qui concerne le message de la pierre, lorsque sur le plateau, on parle que quand le messager ne sont pas sérieux, comment on peut croire le message? C'est ce que je vous dis, mais ne sais pas ce que je fais. C'est ça. Mais dans la tradition même, on dit « Bédoum Koulon ». Je me dis là. Tous ceux qui font du désordre, devant le Bédoum, quand leur a fait, et les jeudis demain, mais je n'ai pas. C'est ça. Bon, à ce qui concerne, frère, vous dites, quand les gens disent que peu importe que vous considérez ça comme ça ne sert à rien et vous donnez l'exemple de l'Israël, désolé. Est-ce que le Togolais peut aller chercher un Togolais béni comme ça pour eux? Je ne vois pas le rapport. Ça, et puis, pour qu'il n'y ait pas de polémique, il faut que le gouvernement doit se prévenir là-dessus. Parce que on est toujours dans les critiques. Nous sommes dans ce pays, dans les années 1963, où on nous a dit que le pays a été assassiné par les Blancs. Alors, si aujourd'hui, nous, les personnes, on voit que nous sommes peut-être qu'on va dire que tous les étrangers aussi sont dans les sociétés du Sassoulou, c'est dangereux. Parce qu'on a traversé le métal du car vers la frontière de l'autre pays pour kidnapper. Alors, je pense qu'il doit y avoir l'entente entre les deux pays et qu'il doit y avoir un silence et éradier tout ça. Mais c'est le qui fait ça.
D'accord, merci beaucoup Pélé. 90 86 35 35 91 36 63 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au club de la presse. Allô?
Bonjour.
Oui, bonjour Basile, comment vous allez?
Salut le plateau.
Le plateau aussi vous salue.
Bon, 35%, j'ai apprécié la petite intervention de mon président auditeur là. Ça dépend de là où on se situe de la gouvernance. Je ne sais pas s'ils ont fait 2% même. Voilà. Bon, quelqu'un a dit, comme vous ne voulez pas qu'on parle d'eux, qu'on ne peut pas développer le pays en 5 ans. Au moins, pendant 20 ans, on peut développer un pays. Ou bien 60 ans, on peut développer un pays. Donc, quand nous parlons, vous dites qu'on s'en prend à qui ou bien à tout. Ce n'est pas ça. Nous vivons dans le même pays. Si vous en trouvez, ce n'est pas une raison. Quand vous venez, ce n'est pas bien. Hein? Le bénignon, on l'a enlevé. Mais vous dites que c'est la sécurité qui est le socle même de notre gouvernance ici. Mais comment on peut venir enlever quelqu'un et si on ne va pas savoir? Mais on dit que c'est la sécurité sur laquelle nous on s'est basé pour prendre le pays pendant au moins 60 ans. Vous voyez ça? Oh. Je vous laisse le soin de porter la responsabilité de ce que vous venez chaque fois nous dire ici. Merci.
Merci, Basile, pour votre intervention. Allô?
Allô?
Oui,
bonjour.
Bonjour, Papa Sordiné.
Oui.
Comment vous allez?
Oh, ça va.
D'accord, allez-y.
Moi, je ne vois pas dans les 75% de quoi là, qu'on parle là. La vie au Togo maintenant, c'est vraiment difficile. Les gens ne trouvent pas à manger. Parfois, peut-être une seule fois dans la journée. Bon, quelles sont ces réalisations? C'est tout juste comme le classement que l'ITEF qu'on nous avait donné la fois parce que le Togo est classé premier dans l'humour ou quelque chose comme ça. Là. C'est vrai. Ça, moi, je ne vois pas ça. Hein. Bonne journée.
D'accord. Bonne journée à vous aussi. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Votre nom, c'est?
C'est Elom.
Elom, vous nous appelez de quel quartier?
De Activité.
Activité, allez-y.
Oui, j'aimerais réagir par rapport à ce que notre frère vient de dire concernant les fêtes traditionnelles et... Il veut que les chrétiens associent les fêtes traditionnelles avec la religion. Je veux lui dire que donc, entre la tradition et la spiritualité, ou bien l'élibation, il y a une différence. Là, moi, je suis dans les hommes, mais je ne me retrouve pas dans la fête-là. Parce que le simple fait que dans une fête, lorsqu'on commence par immoler, à faire les sacrifices, tout ça, là, ce n'est plus la tradition. Parce que pour nous, les chrétiens, Christ est déjà notre sacrifice. Donc, on ne fait plus de sacrifice. Donc, un chrétien qui va dans une fête et qu'on fait encore les sacrifices sur les pierres, les libations, les gens rentrent en transe, ça, ce n'est plus une tradition. Vous voyez, donc, c'est ça la différence. Moi, par exemple, quand on fait les yakayake,
Donc là, je peux me retrouver dans ça là. Et comme les Ivoiriens font les attiquer, c'est leur tradition, leur nourriture traditionnelle. Donc il faut qu'on valorise ces choses-là. Donc il faut, et aussi ce que je vais dire aux frères, il ne faut pas qu'on cherche à imposer la culture aux gens. Plus les gens sont devenus des chrétiens, donc ils ne s'en foutent plus de leur religion là. Non. Donc on ne force pas les idolâtres aussi à venir pratiquer le christianisme. Donc on leur prêche l'évangile. Donc, de passage aussi, je salue notre président et je demande que le Saint-Esprit puisse l'inspirer davantage afin qu'il prenne de bonnes décisions pour le Togo. Que le Seigneur veille sur lui.
Merci beaucoup, Elom, pour votre intervention. 90 86 35 35 91 36 63 115. Allô? Allô, bonjour. Allô? Il est parti. 90 86 35 35. Allô? Oui, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Voilà, c'est monsieur Koffi.
Non, c'est plutôt monsieur Thierry Kokou.
Ah, monsieur Thierry Kokou. Oui, mais voilà, votre voix ressemblait vraiment à celle de monsieur Koffi. Allez-y. Vous nous appelez de quel quartier?
Bon, j'appelle de. Au niveau de la famille Siyembla.
Pardon?
Famille Siyembla.
Ah, allez-y, allez-y.
Voilà. Et je voudrais rebondir sur ce que vous dites.
Je vous remercie. Oui, mais et s'il vous plaît, monsieur Thierry, oui. Parlez un peu plus fort.
Voilà, je veux vous remercier pour tout ce que vous faites. Mm. Et concernant les 35 et 75%, ou 25 ou 35 ou 75%, et moi aussi je me retrouve, peut-être que ça dépend de l'endroit où on se situe au Togo. Et juste revenir sur ce que monsieur. M. Germain Poulet a dit concernant son voyage de Tara, Lomé, la ville, les villes électrifiées, les villages électrifiés. Moi, je ne suis pas trop loin de. Je suis pratiquement attiré, pas trop loin de la route vers Kitedémé. Mais si il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Pas plus que ce matin, avant de venir au travail à Lomé, j'ai dû faire au moins un peu pour chercher de l'eau avant de partir pour le boulot. Donc, c'est pour dire que. Je voudrais, ou bien mon souhait serait que les 25% restants, que nous aussi, qu'on se voit dans ça, hein, qu'on se dise qu'effectivement, les 25% qui restent, que nous aussi, on arrive à avoir de l'eau et de l'électricité. Donc,
D'accord, merci beaucoup, monsieur Thierry Kokou, pour votre intervention. Nous recevons notre dernier auditeur. Allô?
Bonjour.
Oui, bonjour. Comment vous allez?
C'est monsieur Mauto.
Oui, monsieur Mauto.
Je salue le plateau.
Le plateau aussi, vous salue.
Par rapport à monsieur, l'affaire de monsieur Fonguila, un jour, il a dit que les policiers togolais sont les meilleurs renseignés. Moi, j'ai dit faux. C'est pas faux, c'est faux. Si les policiers togolais sont les meilleurs renseignés, le braquage s'est passé à l'aéroport. Toi, on n'a pas arrêté la situation jusqu'à aujourd'hui. L'affaire Fonguila, ça montre comme le point. Il y a une faille dans la
sécurité au Togo. Allô, monsieur Mauto. Oui, personne n'a dit sur ce plateau que les policiers sont les mieux renseignés. Personne.
Monsieur Félix, avant de quoi a dit ça? Vous pouvez le demander.
Ah bon?
Vous sortez après l'émission, allez sur au niveau de la frontière à Katamalaka. Vous allez voir comment les policiers sont rentrés au Togo.
Allez, bonne journée à toi. Alors, je pense que il est le monsieur Mauto, c'est lui le dernier auditeur pour le compte à l'heure de cette émission. Et nous revenons en plateau pour faire un dernier tour de table et clôturer l'émission. Alors, Thierry.
Oui, je crois que l'auditeur disait que j'ai dit que nous sommes dans un pays très renseigné. Je maintiens ce que j'ai dit. J'ai dit que le Togo est un pays très, très renseigné. Nos faits et gestes sont très suivis. Et je maintiens cela. Alors, par rapport à celui qui disait de faire ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais.
Oui.
Je crois que moi, je n'ai lu ça nulle part dans la Bible. Hein. C'est une religion où ceux qui portent cette religion-là racontent ces choses-là. Sinon, dans la Bible, nulle part, cela n'a pas été dit. Et ne perdez pas de vue que aujourd'hui, ceux qui se réclament de qui sont des chrétiens, c'est parce qu'ils sont identifiés à Christ. Alors, si vous vous réclamez chrétien, donc, vous devez copier Christ ou du moins vivre comme Christ. Point barre, il n'y a pas de débat. Alors, par rapport aux 75% des réalisations, je l'ai dit, moi, je n'ai pas copié de la feuille de route. Et pour cette feuille de route-là, malheureusement, le gouvernement n'a pas fait de dissémination comme ils ont l'habitude de faire par rapport au PND. Vous savez que le PND, il y avait une communication autour de la chose qui fait qu'on connaissait un peu son contenu. Malheureusement, pour la feuille de route, je n'ai pas connaissance. Donc, quand on sort du jour au lendemain, nous dire que la réalisation est à 75%, moi, je m'interroge. Voilà.
Ok, Germain?
Oui, non. En fait, ce qu'il faut rappeler, c'est que la feuille de route ne vient pas régler tous les problèmes du pays. C'est-à-dire que c'est une projection qui a été faite sur plusieurs années, chiffrée. On va faire certaines choses. Et bientôt, dans un an, le bilan sera fait. Et on prend l'exemple, par exemple, de l'électrification. Avant, le Togo était à 40%. Aujourd'hui, le Togo est autour de 65%. Et le Togo dit, d'ici 2030, tous les Togolais doivent avoir l'électricité. Alors, il reste à peu près 35%. Est-ce que dans 6 ans, on peut faire les 35% au rythme où on va? Je pense que c'est possible. C'est un exemple que je donne. Voilà, après, ce n'est pas dit que le PND ou la feuille de route qui a suivi le PND, c'est que dès que ça finit 2025, il n'y a plus de problème au Togo, non. Il y aura toujours, même quand un prochain président viendra, il fera la même chose. C'est comme, hein, je dis, au cours de mon mandat, c'est ce que je ferai. Par exemple, ce n'est que ça. Ce n'est pas un truc de tous les problèmes sont réglés. J'ai comme l'impression que les gens se disent, ben, la vie est toujours chère. Il y a des quartiers qui ne sont pas éclairés. Il n'y a pas de l'eau ici. Ça veut dire que rien n'a été fait. Il y a eu des projets chiffrés. Et certains aboutis. Et je crois que peut-être on devrait aller vers le gouvernement pour comprendre un peu plus. Et je profite en fait pour faire un coucou à quelqu'un qui n'a rien à voir avec le gouvernement, mais un Togolais qui excelle dans son domaine, oui, dans l'intelligence artificielle. Le docteur Maurice Malik Mouzo, qui nous a formés pour l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il apporte une grande contribution du côté de la Côte d'Ivoire à la stratégie de l'intelligence artificielle là-bas. Et tout à l'heure même, il est à la tête d'une ONG, d'une organisation internationale qui s'appelle le Conseil international de l'intelligence artificielle.
Ok, merci.
Et il y a un protocole de signature avec des Ivoiriens tout à l'heure et vraiment un chapeau au docteur Malik Maurice Mozo.
D'accord, merci beaucoup Germain. Oui, Firmin.
Vous savez, moi je vais dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Vous savez, moi je n'ai jamais eu confiance véritablement au plan quinquennal. Parce qu'en réalité,
c'est les plans de développement que nous avons souvent,
surtout en Afrique, ces plans en fait n'aident ou ne permettent ou n'aident qu'à gérer le quotidien. C'est-à-dire, moi je voudrais, je demanderai aux autorités du Togo de s'inspirer un peu peut-être de ce que l'Allemagne a fait au sorti de la guerre. C'est-à-dire, il faut des plans qui peut-être embrassent 20 ans, 30 ans, 50 ans. Et là, on a des projets ambitieux avec des milliards, avec des ingénieurs. Et je pense avec ce plan-là qu'on va véritablement décoller. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup critiquent le plan 2020-2025 parce que les gens ne voient pas en réalité les résultats escomptés. Donc, s'il faut véritablement développer le Togo à partir de l'année prochaine, moi, je souhaiterais que les autorités togolaises se disent qu'il faut qu'on lance un plan peut-être de 30 ans, de 50 ans. Et là, on va faire appel aux ingénieurs, à tous les fils, à toutes les filles du pays et on va aller chercher de l'argent, des milliards. Des gens ont découvert juste le pétrole, le gaz, ils se sont développés, je voudrais parler de Qatar. Donc, aujourd'hui, on a assez de ressources.
Nous avons eu vraiment une vision Togo 2030, vous vous souvenez?
Oui, donc je me demande là où est cette vision aujourd'hui. Donc il faut des plans véritablement ambitieux, des plans de milliards pour pouvoir faire décoller le pays, pour électrifier les villages, pour construire des aéroports, pour construire de grandes écoles, pour construire de grandes industries, pour embaucher des milliers de personnes. Okay. C'est avec ces plans-là qu'on va
faire. Merci beaucoup, Kofi.
Je vais parler pour le citoyen lambda. Et dans ce sens, je vais dire ceci. L'État a une responsabilité. C'est celle de protéger les citoyens pauvres, les citoyens riches. Alors, si dans un pays, il y a une partie du peuple qui a les moyens de se procurer les moyens de première nécessité à volonté, et qu'il y a une autre partie de ce peuple-là qui n'en a pas ces moyens-là. Quels que soient les événements faits, il y aura toujours des gens qui seront lésés, une grande partie de gens d'ailleurs. Alors je vais demander au gouvernement, en toute humilité, de faire plus que ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, pour que dans un moment un peu plus proche que plus lointain, que les efforts qu'ils sont en train de fournir puissent se faire sentir dans le panier de la ménagère.
D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Siwavi, Messin, nous sommes à la fin de cette émission. 30 secondes hein, pour votre mot de la fin.
Merci. Moi, je veux dire que je crois au développement du Togo par la culture. Et je demanderais qu'on fasse plus de visibilité sur tout ce qui est culturel, parce que nous avons une richesse à valoriser de ce côté-là. J'invite tout le monde aussi à nous joindre, parce que les côtés festifs de Sifio Festival commencent aujourd'hui. Nous avons des journées d'exhibitions folkloriques et des concerts à partir d'aujourd'hui jusqu'au 8 à Goudrenfort sur un site de 8000 personnes debout qui fait 15000 personnes sur les 10 jours. Donc nous invitons tout le monde, nous invitons surtout les fils et filles du peuple Guémina à nous venir en aide. Et tous ceux qui sont intéressés par ce que nous faisons peuvent nous contacter au 92 02 10 45. 92 02 10 45 pour soutenir Sifio Festival.
Merci beaucoup, M. Siwavi, merci d'être passé dans cette émission. Thierry Afanoukwe, merci à toi. M. Kofi Anani, merci. Germain Pouli, merci à toi. Firmé Teko Abo, merci. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci à tous qui nous avez suivis. Ça a été très, 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 enfin, un grand plaisir pour moi hein, d'avoir animé cette émission. Merci surtout à Thomas et Ted d'ATV qui a assuré la mise en onde. La mise en ligne a été assurée par Jérôme Dakoutsa. Je vous retrouve lundi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien et passez un bon week-end.